Pirlo alle spalle della difesa del Milan.
L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir avec nos chers et prestigieux consultants de l'après-match. Et avec, quand on parle des consultants, on pense toujours au premier, à notre star, la star de l'émission, notre ami Hervé Penaud. Salut Hervé. Aïe, aïe, aïe. Quand je veux faire.
Bah oui, fallait dire Fred Armel.
Voilà,
bah
exactement,
ouais.
Exactement.
Bah voilà.
Mais c'était une
puni.
Blague. Mais c'était une blague. C'était pour t'énerver, mais ça marchait jamais.
Oh là 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 là. Mais non, tu étais puni par le destin. Voilà, quand on ne respecte pas la hiérarchie, voilà ce qui se passe.
Exact.
Moi, hier soir, j'ai vu un match splendide de football.
Exact.
Personne en Europe peut offrir des matchs comme on a vu hier soir au Wanda Metropolitano. Bonsoir, Jalal. Bonsoir à tous.
Ouais, franchement, c'était pour t'énerver. Ça n'a pas marché. Mais
bah
t'es
non.
Trop fort. T'es trop fort. On a vu un super match hier, effectivement, avec comme artisan, comme principal vedette, celui qui était la vedette hier soir, qui risque de l'être ce soir encore, puisque Lionel Messi est, paraît-il, le favori pour décrocher le Ballon d'Or ce soir. Il est le quintuple lauréat de la plus prestigieuse distinction individuelle dans le football. Il est donc annoncé comme le grand favori pour décrocher le sixième Ballon d'Or de sa riche carrière. C'est un record absolu. Hier, le Barça l'a emporté 1-0 grâce à Messi, c'est sûr, mais grâce aussi à cet incroyable gardien de but du Barça. Ter Stegen, on va aller aussi du côté de l'Angleterre, où leader invaincu de la Première Ligue avec 8 points d'avance, Liverpool a entamé une séquence effrénée de matchs qui pourraient conforter ou compliquer ses rêves de titre, à commencer par le derby contre Everton ce mercredi. En Italie, le match à deux pour le Scudetto bat son plein. Et ce week-end, lors de la 14e journée, c'est l'Inter qui a repris les commandes. Victorieux 2-1 de la Spal et Nerazzurri qui ont repris l'avantage sur la Juve, tenue en échec par Sassuolo. 2-2. Et puis vainqueur de Freiburg, 4-2 hier. Le Borussia Mönchengladbach conserve la tête de la Bundesliga et attendra de pied ferme samedi prochain le Bayern de Munich pour le match à ne pas manquer de la 14e journée. On va commencer avec toi, mon cher Fred. D'abord, ce choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. D'abord, Fred, la situation d'Antoine Griezmann qui a été hué par son ancien public, des sifflets, et puis aussi sa petite étoile, on en a parlé, qui a été un petit peu amochée. Donc un match qui s'est déroulé dans des conditions un petit peu difficiles. Il a beaucoup plu, mais ça n'a pas empêché les acteurs de nous offrir un très très beau spectacle.
Bah, commençons par la mauvaise nouvelle, c'est vraiment l'accueil lamentable qui était réservé à Antoine Griezmann. Voilà, il mérite pas ça, quoi. Faut arrêter, quoi. Franchement, la plaque, oui, profanée avec des rats en plastique ou en peluche, des ordures, enfin. Et puis, dès qu'il touchait la balle, mais c'était vraiment, c'était pas une petite partie du public, quoi. C'était pas que les ultras, non, c'était vraiment impressionnant, quoi. Vraiment. Ça a duré tout le match, hein. Le pauvre, il a pas touché beaucoup de ballons, donc il a évité des sifflets continus, mais j'ai eu l'occasion de le croiser après. Bon, il souriait. Voilà, c'est quelqu'un qui tient le coup mentalement, mais sur le terrain, on l'a vu très triste. Après, ça allait mieux. Je pense qu'Antoine, je crois fermement qu'Antoine méritait un autre accueil que celui-là. Les supporters de football peuvent être lamentables. Vraiment. Vraiment. Parfois, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Et je vais pas continuer parce que je vais m'énerver. Mais on peut pas passer de la haine, enfin de l'amour à la haine comme ça. Enfin, ça va, c'est que du foot, quoi. Ok, il a pas été très bon dans sa com, mais bon, il a quand même mis 2 buts en finale d'une Coupe d'Europe pour, en l'occurrence, l'Europa League pour l'Atlético. L'Atlético a quand même pas tant de titres que ça pour pouvoir se permettre de huer un joueur comme ça, quoi. Non, mais moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et je vais même vous dire, moi, j'étais plutôt content que le Barça gagne, rien que pour faire taire ces pseudo-supporters de l'Atlético qui méritaient pas mieux que le mépris hier soir.
Aïe, 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 aïe. Le FC
Barça. On arrête parce que je vais m'énerver.
Voilà, exactement. Bah, j'ai essayé, mais tu t'es énervé tout seul. Moi, j'ai essayé de t'énerver présentant mon cher Hervé Penaud. Encore une occasion de manquer, Hervé.
Bonjour à vous les amis, mais quel bonheur d'être avec vous. Et j'ai eu un petit souci, j'aurais bien aimé passer devant Fred, mais malheureusement,
ah bah ouais, bah j'ai tout fait.
Comment il fait.
J'ai tout fait,
mais
j'ai tout fait.
Il se débrouille toujours.
Bah il nous a débranché. Moi je suis sûr qu'il nous a débranché. Je t'ai présenté comme étant la star numéro 1 de cette émission et ça n'a pas marché. Il a sauté sur l'occasion, Fred. Il est
ouais, mais enfin, pour être la star, il vaut mieux avoir une bonne connexion Wi-Fi, c'est tout.
Ça c'est sûr. Et éventuellement de bonnes analyses. Hein. Ça, c'est un détail. Hein. C'est un petit.
Le problème, c'est Fred. Il a la connexion Wi-Fi, mais il n'a pas les analyses. Enfin, moi, j'ai les analyses et pas la connexion Wi-Fi. On se complète.
Tu vas nous.
Tous les deux, on fera un super consultant, en fait.
Ah, ouais, c'est vrai. À deux, ça devrait marcher. Bon, on va revenir, bien sûr, mon cher Hervé, à la Ligue des champions d'Afrique. Il y a eu de très, très belles affiches et puis des confirmations, par exemple. Pour le tout-puissant Mazembe, mais vraiment qui s'affiche aujourd'hui comme l'un des grands candidats, véritable démonstration de force pour le TP Mazembe. Et puis le Raja, après les émotions du week-end dernier, d'il y a une semaine en fait, et sa victoire dans cette ambiance incroyable, dans le derby face au Wydad, le Raja peut-être est resté sur son nuage. Et il fallait pas, voilà, il fallait quand même se réveiller parce que l'adversaire était de taille. Ça s'appelle l'Espérance de Tunis, c'est un très grand Espérance qui n'a pas volé ses 3 points de la victoire à Casablanca. Et puis le Wydad qui a ramené le point du match nul de son déplacement chez l'USMA.
Absolument. Ben, on a vu surtout que l'Espérance de Tunis assumait son statut de favori, hein, parce que là, il fallait quand même être fort. Alors, bien sûr, le Raja, c'est pas le meilleur Raja de l'histoire, on va dire, mais il n'empêche qu'il faut être capable de s'imposer dès un premier match comme ça à l'extérieur facilement. Et puis, il y avait rien à dire. C'est vraiment une équipe qui est vraiment forte, sûre de sa force, hein, qui est capable défensivement d'être très très solide. Hein, c'est très dur quand même de les mettre en difficulté. Et puis, ils peuvent piquer à tout moment, là, et même très très rapidement, comme on l'a vu. Donc Tunis se positionne comme le favori une nouvelle fois à mon avis sur cette Ligue des Champions. Hein. C'est le club aujourd'hui un peu numéro un peu phare. Le Wydad s'en sort bien, on va dire. Hein. Ça se joue sur le fil, mais c'est un point qui sera important hein, pour la suite. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans une compétition, il va falloir finir dans les deux premiers. Et même pour le Raja, si on peut estimer que Tunis sera vraiment devant, ça se jouera pas contre Tunis. Donc il va falloir prendre les points ailleurs. Et TP Mazembe, a affiché un peu ce qu'on pouvait attendre de lui, parce que et puis avec un Trésor Mputu qui a battu le record de buts hein, sur la Ligue des Champions africaines, qui continue de le battre, c'est assez impressionnant ce qu'arrive à faire Trésor Mputu, qu'on croyait complètement perdu à un moment pour le football. Il avait tenté des expériences en Europe, bon, on ne sait plus où il était, il est revenu au TP Mazembe, il était parti en Angola, il est revenu au TP Mazembe, et aujourd'hui c'est vraiment le meneur de jeu incroyable. En plus ça tombait bien parce qu'ils avaient fêté peu de temps avant les 80 ans du club, en présence de Gianni Infantino d'ailleurs. Mais ce qu'il faut dire aussi avec ce Zamalek, c'est qu'on a l'impression que ça va très mal Zamalek. On a vu Naged, le joueur tunisien qui a quitté le club là, hier ou aujourd'hui, par estimant qu'il n'avait pas été payé depuis 4 mois. Au club, on assure qu'il a été payé. Ça se jouera devant la FIFA. Mais on sait comment ça se passe souvent dans les clubs égyptiens. C'est qu'à tout moment, tout peut exploser. Et j'ai bien peur que cette défaite-là fasse très très mal aux Zamalek et à Micho. Donc attention, on ne sait pas comment les choses vont évoluer là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est visiblement, certains joueurs se plaignent d'avoir des soucis, des arriérés de salaire. Alors lui a pris la décision de quitter le club. Peut-être que d'autres suivront. Donc il faudra suivre ça avec pas mal d'attention parce que quand même, Zamalek, c'est un des gros clubs africains, évidemment, égyptiens et africains.
Alors Fred, on va revenir chez toi en Espagne. Donc cette victoire du Barça, une victoire qui fait beaucoup de bien donc au club catalan, à son entraîneur aussi, Ernesto Valverde. Bien sûr, une victoire qui permet aussi au Barça de reprendre les commandes de la Liga juste devant le Real.
Oui, avec le même nombre de points, ouais. Hein, puisque tous les deux ont 31 points. Sincèrement, le niveau de l'Atlético et même le niveau du Barça a été plus élevé que ces dernières semaines. Mais il y a quand même des inquiétudes à avoir pour les deux équipes. Commençons par l'Atlético, franchement, qui a mis du cœur, qui a été compétitive, mais qui a un gros problème d'efficacité devant. Parce qu'il y a eu des occasions énormes, notamment en début de rencontre pour les Colchoneros. Et puis, il y a une petite phrase de Simeone, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'analyse, hein, une vingtaine d'heures après cette rencontre. Elle est passée un petit peu inaperçue, mais je pense qu'on peut s'y attarder un peu. Il a dit « Attention, nous sommes une équipe en transition ». Ouais, mais ça, c'est reconnaître son échec. C'est-à-dire que ce n'est pas du Simeone. Et d'ailleurs, le vice-président de l'Atlético, tout juste derrière, a dit « Il n'y a pas de transition à l'Atlético. On doit toujours gagner ». Donc, c'est comme si Simeone se rendait compte que cette saison, il ne pouvait pas faire grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu la moitié de son équipe titulaire. Il n'y a plus Griezmann. Et je peux vous dire que hier soir, avec un Griezmann du côté de l'Atlético, les Colchoneros auraient marqué au moins un ou deux buts, quoi, hein, avec les occasions qu'il y a eu. Morata a fait de boulot, il s'est battu, mais il n'a pas cette efficacité-là. Correa n'a pas été efficace. João Félix est encore trop jeune et pas assez puissant physiquement pour un championnat aussi dur que la Liga. Donc, on a vraiment le sentiment que Simeone a un peu renoncé à cette saison, qu'il sait très bien qu'il n'a pas les moyens humains aujourd'hui d'être un vrai concurrent pour le Real, le Barça, pour Séville, voire la Real Sociedad, qui sont des clubs qui sont devant lui. Donc, puisqu'aujourd'hui, l'Atlético est sixième.
L'Atlético Madrid, oui. Sixième. En revanche, oui. le Real, Fred, le Real, qui a eu un match compliqué face à l'Alavés, mais une victoire de buts à un, grâce notamment au capitaine Sergio Ramos.
Oui, alors simplement, je vais dire un dernier mot sur le Barça quand même, parce que dans le jeu, c'était quand même pas génial. Et aujourd'hui, le Barça est extrêmement dépendant de deux joueurs, Messi, tu l'as dit, mais surtout de Ter Stegen. Parce que je ne sais pas, les amis, si vous avez vu les arrêts de Ter Stegen, mais c'est des trucs de malade. C'est-à-dire, c'est impressionnant. C'est miraculeux ce qu'il fait. C'est-à-dire, des têtes piquées à bout portant, il y a toujours un bout de son corps pour détourner le ballon. Il a sauvé trois buts, tout fait à l'Atlético. Donc, ça veut dire quelque chose. Après, dans le jeu, il y a quand même beaucoup de doutes à avoir sur certains joueurs du Barça. On aura l'occasion d'y revenir. C'est vrai que c'était un match important au niveau des résultats, que Ter Stegen et Messi se sont montrés, mais que globalement, le Barça n'est pas encore une équipe performante. Ça se voit dans le jeu. Pour arriver au Real...
Est-ce que le Real est une équipe performante aujourd'hui ?
Après la victoire à l'Alavés, on peut dire que oui. Oui, parce que ce sont pas des individualités qui ont gagné. C'est vraiment un collectif. Vraiment, ça a été un match compliqué parce qu'à l'Alavés, comme à Eibar il y a trois semaines, vous savez, les voyages dans le nord où il pleut, où le terrain est gras, où les stades sont petits, la pelouse est réduite, où il n'y a pas beaucoup d'espace, où vous avez des Basques qui rentrent dedans, ben, il faut un sacré caractère et un sacré collectif pour l'emporter. L'an dernier, le Real avait perdu 3-0 à Eibar, avait perdu 1-0 à l'Alavés. Là, ils ont gagné 4-0 à Eibar il y a trois semaines et là, ils gagnent hier 2-1. Et surtout qu'il y a eu ce pénalty, alors ce but de la tête sur corner de Ramos et puis un peu après le pénalty idiot commis par ce même Ramos. Et ben quand Alaves égalise, on se dit « Aïe, le Real va perdre 2 points ». Et ben non, quelques minutes après, un super moment collectif et la hargne d'un Isco qui va chercher de la tête un ballon et puis un Carvajal qui se bat, qui met le but, on ne sait pas avec quelle partie de son corps, mais il le met. Voilà, il y a un vrai esprit collectif et on a le sentiment, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est toute la presse espagnole, notamment un très bel article dans Marca en disant c'est grâce à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est encore en train de gagner son pari. On ne comprenait pas ce qui se passait cet été. Si Zidane est en train de préparer son équipe et on ne demande pas à un club comme le Real d'être performant au mois d'août. Non, il faut être bon quand le mois de décembre arrive, quand la saison débute et que les matchs décisifs se présentent. Et vraiment, on a à part Bale, qui semble en dehors du coup, on a tous les joueurs et Ramos qui est blessé et qui est aussi en dehors du coup, mais réussir à faire revenir dans le groupe un type comme Isco qui a fait un très bon match, n'est-ce pas Hervé, contre le PSG et qui a été très bon sur un terrain difficile, eh ben, ce Real-là, aujourd'hui, me paraît être moi l'une des équipes, peut-être l'équipe la plus solide du championnat espagnol. Au niveau de la beauté du jeu, ça reste la Real Sociedad et Séville. Mais au niveau de la solidité collective, je pense que le Real a un petit point d'avance sur tout le monde.
Et surtout que le Real n'a pas aujourd'hui, en tout cas les joueurs qui sont censés être les véritables leaders techniques. On parle bien entendu d'Eden Hazard, aujourd'hui blessé, mais qui depuis le début de la saison n'a pas apporté grand-chose encore, en tout cas.
Ça commence à venir.
Voilà, ça commence à venir. Malheureusement, il y a eu cette blessure. On parle de Gareth Bale, mais avec Karim Benzema en fer de lance et en véritable patron aujourd'hui de cette équipe, avec le jeune Valverde, on en a parlé dernièrement, le Real de Zinedine Zidane est en train de s'imposer. Et je suis d'accord là, je partage mais complètement ton avis et ton analyse, Fred, comme un club très très efficace, très équilibré. Je vais sortir maintenant un sujet qui vous concerne tous les deux, malheureusement. On va revenir au Barça et à son capitaine Lionel Messi. Bien sûr, un mince suspense chez les messieurs aujourd'hui au niveau du Ballon d'Or. Bien sûr, l'Argentin Lionel Messi est donné favori. Il reste, bien entendu, officiellement, en tout cas, un petit suspense hein, par rapport à ce sacre annoncé de l'Argentin, son sixième Ballon d'Or. Hervé, est-ce que tu comprendrais, si jamais c'est Lionel Messi, que ça soit l'Argentin le lauréat de ce Ballon d'Or?
Alors je comprendrais, oui, parce que il faut dire quand même que Messi sort d'une année assez fabuleuse. Faut pas oublier ce qu'a réussi Messi. Alors bien sûr, le problème de Messi, c'est la Ligue des Champions avec Barcelone, le fameux échec contre Liverpool, et qui a pu aussi endommager les chances des joueurs de Liverpool, puisqu'il y a tellement de joueurs qui étaient susceptibles d'être au Ballon d'Or, qui sont susceptibles d'être Ballon d'Or. Peut-être qu'il peut y avoir une dilution des voix sur chacun des joueurs. Mais on est obligé de comprendre pourquoi le meilleur joueur du monde et l'impact qu'il a eu quand même sur l'équipe de Barcelone qui, cette année. Ils sont quand même champions d'Espagne. Là, en ce moment, ils volent. Ça paraît pas scandaleux du tout. Loin de là, au contraire, je trouve ça peut être assez logique qu'il soit numéro un. Même si, vous savez mon point de vue, on en a déjà discuté. J'aurais aimé que ce soit, et j'espère que ce sera Sadio Mané, parce que je trouve que Sadio Mané sort d'une saison phénoménale. Lui, il a porté l'équipe de Liverpool pour aller en finale de Ligue des Champions et l'a remportée. Alors, il n'a pas été le seul. Hein. Vous avez aussi Alisson Becker qui a été énorme. Vous avez Van Dijk qui est évidemment énorme. Vous avez Mané Salah qui a été énorme. Mais lui, je trouve que c'est ce petit plus, c'est le petit plus supplémentaire. Je l'avais déjà dit une fois dans une émission, mais on compare pas Piqué, Busquets à Messi. Bah là, c'est un peu pareil. Van Dijk et Mané, pour moi, Mané, ça reste le créateur, le joueur qui fait les différences. C'est pas tout à fait la même chose. Des Ballons d'Or, c'est souvent une récompense quand même pour un joueur offensif, parce que sinon Varane est terminé septième après avoir tout gagné. Vous vous rendez compte, c'est quand même assez surprenant, parce qu'à l'époque, on pouvait l'imaginer pour Raphaël Varane. Donc Mané, moi, mon favori, évidemment, celui que j'aimerais voir décrocher le titre, et ce serait magnifique pour le football africain, parce qu'il y a quand même une symbolique qu'on peut pas écarter hein, de ce type de récompense, surtout là, vu l'importance de l'événement. Hein. C'est qu'année après année, j'ai l'impression que ça prend un poids phénoménal. Et c'est d'ailleurs même Didier Drogba qui va le présenter ce soir au Châtelet. Donc, et dans une cérémonie qu'on attend grandiose. Donc aujourd'hui, mon favori de cœur, voilà, je vais dire, c'est Sadio Mané. Mais si c'était Messi, évidemment, je pense qu'il y a peu de gens quand même qui seraient capables de dire « Messi ne mérite même pas d'être Ballon d'Or ».
On peut rien refuser à Lionel Messi. Fred, Messi, Ballon d'Or, tu signes tout de suite ?
De toute façon, moi j'ai beaucoup de respect et je suis aussi le correspondant de France Football à Madrid. Donc je ne peux que respecter et je sais comment ça marche. Et je sais que les votes sont très sérieux. Que contrairement à d'autres prix où parfois on ne prend pas beaucoup d'attention, je peux vous assurer que les 187 environ votants de par le monde sont des gens très sérieux. Et pour moi avoir contact avec le votant espagnol, je peux vous dire que ce sont des gens qui travaillent bien. Donc quoi qu'il arrive, le vainqueur est légitime, sincèrement. Voilà ce sont des journalistes. Hervé, c'est vrai, ce journaliste qui étudie, oui, moi je vois comment travaillent certains, qui regardent jusqu'à la dernière image la veille du vote pour se faire une idée. Donc voilà, c'est pas des votes faits par-dessus la jambe. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où le jury, les jurés et leur manière de travailler et l'organisation est excellente, on ne peut que respecter la décision. Je sais pas qui va gagner, mais si un joueur de Liverpool ne l'avait pas, je pense qu'il serait peut-être desservi par le fait qu'il y avait, comme l'a dit Hervé, il y a eu beaucoup de bons joueurs de Liverpool. Beaucoup de joueurs de Liverpool ont participé à la conquête de ce Ballon d'Or. Donc par exemple, la saison dernière,
Il y a eu le même phénomène pour l'équipe de France, hein.
Oui, parce que Griezmann a terminé 3e et Mbappé 4e. Ouais. Donc automatiquement, ce sont des votes qui se divisent. Donc voilà, quand il y a plusieurs stars dans une équipe, automatiquement ça, voilà, des votes se perdent. Et mais voilà, quoi qu'il arrive, ce Ballon d'Or à l'ancienne, c'est-à-dire uniquement avec les journalistes qui votent, est tout à fait légitime. Donc celui qui le gagnera sera légitime. Moi, quand on parle de scandale, moi je ne sais pas. Moi, je me souviens, en 2006, on avait dit que c'était un scandale que Cannavaro soit Ballon d'Or. Enfin, le mec, il est champion du monde, capitaine de l'équipe championne du monde. Oui, bah voilà, il y a peut-être eu des Ballons d'Or un peu plus sexy, mais il était totalement légitime. À partir du moment où le vote est légitime, le résultat est légitime. À partir du moment où les votants sont légitimes, le résultat est légitime. Donc, quel que soit le Ballon d'Or ce soir, il l'aura bien mérité.
Mon cher Hervé.
Oui, parce que j'ai lu beaucoup de choses là, sur les réseaux sociaux, effectivement, sur une forme de racisme qu'il y aurait dans ce vote. Alors, il faut surtout pas rentrer dans ces jeux-là, parce que là, c'est très, très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Je pense que les Africains, dans le regard, je dis bien les Africains, dans le regard pas des pays étrangers, sont peut-être moins cotés. Ça, c'est une vraie possibilité. Mm-hmm. C'est pas lié à la couleur de peau.
Non.
Un noir brésilien, par exemple, n'est pas considéré comme un noir africain dans le regard des gens qui votent. Hein, ouais. Attention, c'est pour ça qu'il faut bien se méfier. Je pense que vous êtes africain. Une fois, Samuel Eto'o m'avait dit si je m'appelais Etoninho,
voilà,
il avait raison.
Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, mais c'est un Brésilien est censé être meilleur footballeur qu'un Africain, qu'un Danois peut-être.
En Europe,
je l'avais dit, ce qu'a dit Tuchel.
Exactement. Un très bon joueur de Liechtenstein n'aura jamais le Ballon d'Or.
Bah, ce sera pas aussi en étant pareil qu'un Allemand, par exemple, parce qu'il y a une tradition. Mais c'est vrai.
Parce qu'en plus il y a une chose. Rappelez-vous ce qu'a fait, et ça c'est énorme. Les gens l'ont pas trop noté, mais j'en ai parlé moi je crois dans l'émission. Mais sur l'histoire de Klopp, quand on lui dit quel est votre meilleur joueur de l'année, il dit si c'est le meilleur joueur, c'est Lionel. Si c'est le meilleur joueur de l'année, c'est Virgil. Mais imaginez-vous ça avec Cristiano Ronaldo, avec même à l'époque où il était à Liverpool, s'il y avait Suarez. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il aurait pu dire « Oh, le meilleur joueur, c'est Virgil, s'il y avait Suarez, mais Suarez, il va frapper à sa porte et vous prenez pour qui ?» Même si vous le pensez, vous ne le dites pas devant tout le monde. Quand Benitez avait dit de Ronaldo, en gros, qu'il n'était pas le meilleur joueur du monde, c'était un très grand joueur, mais Ronaldo, dès le lendemain, il peut plus le sentir. Il dit quoi ? Il ne considère pas que je suis le meilleur. Moi, j'ai trouvé que cette manière de faire avec Mané, c'est peut-être parce que lui, il est gentil, souriant, on se dit, bon, il va rien dire. Mais je peux vous dire que vous n'allez pas dire ça à Ronaldo. Fred, t'imagines au Real Madrid, si l'entraîneur du Real avait dit, oh, le meilleur joueur de l'année, ça a quand même été Ramos, c'est une année où tu gagnes la Ligue des Champions avec Ronaldo. Tu dis toujours que c'est Ronaldo, ou alors tu dis rien.
Voilà, exactement.
Il y a même en Espagne cette communication un peu ridicule, excuse-moi mon cher Fred, où tous les entraîneurs et joueurs du Barça étaient obligés de dire que Messi est le meilleur joueur du monde, et à côté, tout le monde, c'était dans la charte, je pense même, du Real Madrid où Zinedine Zidane était tout simplement le meilleur. Mais pour moi, en tout cas dans l'après-match, j'arrive pas à faire la différence entre les deux meilleurs, Hervé Penaud et Fred Hermel. Vous êtes top, les amis.
Oh, c'est magnifique. Si, il y a une grande différence. Il y a un analyste et quelqu'un qui est du wifi.
Voilà, un analyste. C'est sûr.
Je ne dirais pas qui est qui.
Et un ingénieur en télécommunication, Fred Hermel, qui arrive toujours à bien se débrouiller, même à déconnecter les autres, et avoir lui une bonne connexion et déconnecter les autres, comme ça a été le cas tout à l'heure. Merci beaucoup, Fred.
Adios les amis.
Merci Hervé, c'est toujours un plaisir de vous avoir les amis. Il est 17h,
ciao,
28 minutes et 30 secondes, c'est la fin de cette première partie de l'après-match. Restez avec nous, on va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie. On parlera football allemand, italien et anglais. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'après-match, après la première demi-heure, passée en compagnie de Fred Hermel et d'Hervé Penaud. On va accueillir aujourd'hui dans cette seconde partie nos trois autres consultants, l'Italien Simone Rovera, l'Allemand David Lortolari et puis pour la Première Ligue bien sûr, Aurélien Devernois. Je vais commencer par l'Italie, par Akira. accueillir Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, bonjour à tous. Comme d'habitude, c'est un grand plaisir de passer cet moment avec vous à parler du football. Et du football italien. Les meilleurs footballs au monde, bien sûr.
Aïe, 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 le meilleur football. On va vous mettre d'accord un jour, hein, surtout avec notre ami Fred Hermel. Alors, Simone, ce match à deux pour le Scudetto qui bat son plein en Italie, avec l'Inter de Milan, d'Antonio Conte qui a repris les commandes après sa victoire face à la Spalle de Buzaa. Dans le même temps, la Juventus, avec Ronaldo, la Juventus s'est contentée d'un nul face à Sassuolo, 2-0. Simone.
Oui, on est obligé de partir avec l'Inter parce que ce qu'est en train de faire l'équipe d'Antonio Conte, c'est vraiment extraordinaire. Ce qu'est en train de faire Antonio Conte, c'est encore plus extraordinaire. Parce que n'oublions pas qu'il vit sa première saison sur le banc de touche Nerazzurro. Il est en train de transformer cette équipe vraiment comme avec une rapidité totalement inattendue. Aujourd'hui, si la Juve n'a encore pas vraiment une patte Sarri, il y a d'autres équipes qui galèrent avec les nouveaux entraîneurs. Antonio Conte est en train vraiment de construire quelque chose d'incroyable. Déjà, il faut dire les records qu'est en train de battre l'Inter, qui a gagné 12 matchs en ce début de saison en Serie A sur 14. C'est la première fois dans l'histoire du club Nerazzurro en Serie A qu'il y a une telle domination et une telle statistique. Mais au-delà du travail de Conte, qui est excellent, qui a revitalisé certains joueurs, comme Candreva, comme D'Ambrosio, qui est en train de faire vivre une deuxième jeunesse, on peut dire, à certains joueurs un peu plus oubliés, qui a fait vivre un grand moment à Brozovic, qui devient vraiment une pièce maîtresse de cet Inter, il faut parler des deux attaquants. Parce que Lautaro et Lukaku sont peut-être aujourd'hui la paire plus complémentaire qu'il y a en Serie A. On est encore en train de chercher, de comprendre quelle est la colocation de Cristiano avec Dybala Higuaín à la Juve. Par contre, à l'Inter, on n'a que de certitudes. Lautaro et Lukaku, bien sûr, il n'y a pas de remplaçants, il y a eu des blessures. Mais les deux sont en train de vivre une saison extraordinaire. Je parle souvent de Lukaku, qui a fait oublier Icardi. Aujourd'hui, je veux dire deux mots sur Lautaro, parce que ses stats sont incroyables. 13 buts en 19 matchs, 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions en marquant un but. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça dans l'histoire de l'Inter, seulement Crespo, Vieri et Eto'o, imaginez. Et surtout, pour moi, la chose plus importante, Lautaro marque des buts toujours décisifs ou quand même très importants dans ce match. 9 fois cette saison, donc 9 fois sur 13 buts, il a marqué les buts du 1-0. C'est lui qui ouvre les scores, c'est lui qui donne les premières pas vers la victoire à l'Inter. Et chaque fois, c'est en façon différente. Pied droit, pied gauche, la tête, penalty. C'est quelqu'un vraiment qui est en train de exploser à niveau de talent. C'est quelqu'un qui est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, Lautaro, c'est probablement la plus belle... Les joueurs avec une potentielle plus-value qu'il y a en foot italien, la pépite qui monte, les symboles du football d'avenir. Et si la Juve rêve avec Dybala, l'Inter vit un grand rêve, les yeux ouverts avec Lautaro.
Voilà, Simone, la Juve qui rêve avec Dybala, mais qui ne rêve plus avec un certain Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, vous voulez faire un petit peu de la critique, tout comme son entraîneur, l'entraîneur de la Juve, Sarri, Simone.
Si dans la maison d'Antonio Conte tout va bien, chez Maurizio Sarri et Carlo Ancelotti, les choses vont plutôt mal. Oui, il y a une différence énorme aujourd'hui entre l'euphorie qu'on vit à Milan et les grosses déceptions de Turin et Naples. Deux déceptions différentes, mais également énorme, parce que la Juve perd la première place, mais surtout perd beaucoup de certitudes. Aujourd'hui, un problème s'appelle Cristiano Ronaldo, ça fait un mois que je l'ai dit. Hier, oui, il a marqué un but, celui de l'égalisation, quand la Juve était menée 2-1 à domicile par Sassuolo, qui a fait un très bon match, il faut le dire, l'équipe de De Zerbi, mais a fait un bon match aidé par la Juve, qui jouait mal, qui était lente, qui était prévisible, et où certains joueurs avaient aucune, presque, envie de donner leur maximum. Je pense à Emre Can qui ne joue pas la Ligue des Champions, il est dehors de la liste. Et quand il est titulaire en championnat, c'est souvent catastrophique. Alexandro revenait des blessures. Est-ce que c'était le meilleur moment de le mettre titulaire? Et en parlant des joueurs qui sont titulaires, on ne peut pas que revenir sur le cas Cristiano, qui est resté un mois sans marquer. Il a marqué, oui, sur pénalty, comme il avait marqué les derniers buts sur pénalty face au Genoa. Et la Juve s'est fait encore une fois peur à domicile, où il avait battu de courtes mesures 2-1 Genoa, Bologna, Verona. Et là, cette fois, il n'a pas eu la chance de marquer une but en plus, ou a eu la malchance d'en casser une des trop. Et c'est le cas vraiment, vraiment de cette horreur totale de la défense juventina, avec Cuadrado, De Ligt et Jaime. Gigi Buffon, hélas, qui fait une erreur, une bourde incroyable. Lui aussi, ça peut être une des victimes des rotations de Maurizio Sarri, qui peut-être n'arrive pas à trouver le bon équilibre entre l'équipe qui joue en championnat et en Ligue des Champions. Situation qui est encore plus claire et nette à Napoli, où l'équipe qui a pris 4 points sur 6 au Liverpool, champion d'Europe, meilleure équipe de la Premier League, n'arrive pas à battre à domicile une équipe comme Bologna et perd en plus sur un match joué sans envie, sans engagement, avec là aussi beaucoup de changements de composition en rapport à la Ligue des Champions, et avec un Carlo Ancelotti qui, après le match, il a perdu son aplomb, il a pété vraiment un câble. Il a dit clairement, si les joueurs ne m'aident pas à trouver les solutions, je les ferai toute seule. J'ai ma responsabilité, mais les joueurs sont eux qui vont sur le terrain. Et il faut donner les 100%. C'est pas possible que sur un match, on donne 100% et sur un autre match, les 30. Donc, si Carlo Ancelotti, qui a toujours été très proche de ses joueurs, commence à avouer d'avoir l'impression que les joueurs ne sont pas avec lui, de ne trouver pas les solutions, ça peut devenir compliqué. J'ai l'impression, et je l'ai dit clairement, que les joueurs de Naples savent, plusieurs savent que c'est la dernière saison dans certains projets. Ils vont donner les 100% en Ligue des Champions pour chercher de faire quelque chose du jamais vu, arriver en quart de finale, pourquoi pas, ce serait historique pour Naples. Mais attention, à partir de ça, beaucoup de joueurs savent qu'ils vont partir à la fin de la saison, donc ils vont pas donner les 100% pour chercher d'amener Naples en Ligue des Champions, une Ligue des Champions que eux ne joueront pas.
Voilà donc pour l'Italie, mais qu'est-ce qu'il est bavard, hein, notre Simone, revers à notre Italien. Il m'a même pas permis, en tout cas, d'accueillir Aurélien Devernois. Salut Aurélien.
Salut Jalal, bonsoir à tous.
Et d'accueillir aussi David Lortolari. Salut David.
Salut Jalal, salut Aurélien et bonsoir à tous.
Alors on va commencer par l'Angleterre bien entendu, Liverpool qui a de nouveau accru son avance en tête de la Premier League en gagnant et surtout en profitant des contre-performances de Manchester City à Newcastle et de Chelsea à domicile face à West Ham. Un véritable boulevard pour Liverpool. Je rappelle juste que Liverpool n'a jamais gagné la Premier League depuis que la Premier League existe, depuis 30 ans. Est-ce que cette année, je sais que c'est trop tôt, on va se poser cette question chaque semaine et à chaque victoire de Liverpool, est-ce que cette année c'est la bonne ?
C'est difficile à dire parce que ils ont quand même une réputation de loser en Première Ligue qui est quand même bien établie. Ils ont quand même réussi à un sacré nombre de reprises de perdre des championnats qui leur semblaient promis. Donc faut jamais trop s'avancer avec Liverpool. Mais c'est vrai que cette saison quand même, ils sont forts. Ils sont très très forts. Ils sont forts même quand ils sont mauvais. Donc ça, c'est quand même un signe généralement qui ne trompe pas quand l'équipe joue pas bien et qu'elle gagne malgré tout. Et c'est le cas depuis 2-3 semaines en Première Ligue. Liverpool joue pas forcément très bien. En plus, Liverpool a perdu Fabinho sur blessure et c'était devenu une pièce essentielle du milieu de terrain. Et même sans bien jouer, ben il y a toujours des solutions. Quand le trio d'attaque marche pas, et ben vous avez Virgil van Dijk qui arrive de derrière et qui met deux buts de la tête sur un coup de pied arrêté. Quand la défense flotte un peu à Alisson se fait expulser, eh ben ça resserre les rangs dans la défense et ça évite de se faire égaliser à la dernière minute comme Liverpool en avait pris l'habitude ces dernières saisons. C'est une équipe qui est très 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 solide mentalement, qui à qui on a l'impression qu'il ne peut pas arriver grand-chose. Après, il faut quand même dire que Liverpool creuse l'écart sur Manchester City et Chelsea certes, mais pas sur Leicester City parce que Leicester a encore gagné. Et Leicester, c'est assez marrant parce que c'est une équipe qui est un peu similaire à Liverpool. Ils ont un mental mais extraordinaire. Ils ont fait un match vraiment, c'est un des, je pense, un des plus mauvais matchs de la saison de Leicester que j'ai pu voir contre Everton. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça a été compliqué. Ils ont été menés pendant plus de 40 minutes. Et puis, ils ont encore une fois trouvé la solution. Encore une fois, Jamie Vardy a surgi et est venu égaliser. Et puis, il y a un revenant qui est allé marquer ce but de la victoire. C'est le Nigérian Iheanacho qui est allé arracher cette victoire au bout du temps réglementaire. Et Leicester, c'est vraiment une équipe qui est très impressionnante également. Brendan Rodgers, je le redis, fait un travail extraordinaire avec cette équipe. C'est une équipe qui marche très bien. Et Liverpool, même avec 8 points d'avance, même avec l'équipe championne d'Europe en titre qui est en place du côté de Liverpool, eh bien, devrait quand même continuer à se méfier des Foxes de Leicester.
Liverpool, qui devrait aussi, peut-être surtout, Aurélien, se méfier de la programmation. 10 matchs, 6 de championnat, un match de Ligue des Champions, un de Coupe de la Ligue, deux pour la Coupe du Monde des clubs. C'est le copieux menu des Red Devils. Alors, tenez-vous bien, entre le 4 décembre et le 2 janvier.
Ah oui, non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et Klopp l'a déjà dit, c'est pour ça qu'à un moment ils hésitaient à envoyer une équipe de jeunes pour jouer les demi-finales de la League Cup contre Aston Villa, parce que c'est infernal, et en plus les dates se superposent. Vous voulez, ils jouent la Coupe du Monde des clubs en jouant quasiment la demi ou le quart de la Coupe de la Ligue, enfin bon, c'est complètement fou. Et puis le problème qu'a Liverpool, et ça il va falloir vraiment regarder ça de près, c'est que ils ont pas... on va dire un effectif extrêmement profond. Klopp fait très peu tourner son équipe. Du coup, les remplaçants, alors certes, il y en a qui tiennent le choc, type Origi, qui généralement marque à chaque fois qu'il est aligné. Mais au milieu de terrain, Lallana, par exemple, est un peu plus en difficulté. Keita, il a un petit peu disparu. Il est dans la rotation, mais bon, il a un peu de mal à retrouver son niveau de la saison passée. Et là, ils vont avoir beaucoup de responsabilités dans les matchs, parce qu'il faudra bien jouer certains matchs que les remplaçants viennent pallier à la fatigue des titulaires. Et c'est vrai que ça peut se révéler compliqué. Et en plus, Klopp, il y a autre chose qu'il n'a pas fait depuis le début de saison, c'est donner un petit peu de temps de jeu aux très jeunes joueurs. Je pense notamment à Ryan Brewster, qui est un jeune attaquant très prometteur à Liverpool. Il a joué très très peu et ça, le résultat, c'est que c'est des joueurs qui ont peu de repères sur le terrain, qui ont peu d'automatisme avec leurs coéquipiers, et ça en effet ça peut être un vrai danger pour Liverpool, sachant que il y a en effet beaucoup de choses en jeu en cette fin d'année, que ce soit en championnat, que ce soit évidemment en Ligue des Champions avec ce déplacement très compliqué à Salzbourg. Voilà, il va falloir que Liverpool encore une fois serre les rangs continue à montrer ce mental d'acier qu'il expose depuis le début de saison.
Alors, pour Aurélien, le meilleur championnat du monde, bien sûr, c'est la Premier League. Pour Fred, c'est la Liga. Pour Simone, c'est la Serie A. Et pour toi, David, c'est quand même, peut-être pas le meilleur championnat du monde, mais l'un des championnats les plus passionnants, les plus ouverts. Un leader, il s'appelle Mönchengladbach, qui conserve les commandes avec bien sûr cette nouvelle victoire. Le Bayern de Munich, lui, s'est incliné, et la prochaine journée pour faire de cette confrontation encore un choc explosif qui vintage un peu. Il nous rappelle un petit peu les chocs des années 70 entre les deux Bayern, entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach. Ça sera lors de la prochaine journée, la 14e, ce choc entre le Bayern de Munich et le Borussia Mönchengladbach. Comment on peut expliquer, parce qu'on s'attendait à ce que, voilà, Mönchengladbach amuse un petit peu la galerie, mais arrive un moment qu'elle se fatigue, mais elle tient le coup.
Oui, beaucoup de raisons multiples qui s'additionnent. Et effectivement, les médias se sont emparés en ce tout début de semaine de ce choc au sommet qui se précise. Le calendrier est bien fait, hein, en l'occurrence, parce que le Bayern voulait essayer de récupérer la première place En battant Mönchengladbach la semaine prochaine, il ne pourra pas le faire parce qu'il a perdu injustement si on veut, mais il a perdu 1-2 ce week-end contre Leverkusen. Et il y a des raisons effectivement qui sont vraiment positives pour Mönchengladbach. Et d'abord le contexte, l'ambiance, cette ville qui retrouve ce mythe des années 70 avec beaucoup d'appétit, avec beaucoup de respect aussi. Il n'y a aucun dérapage, rien qui soit hors sujet. On est derrière les joueurs et c'est très positif et très sain, je trouve, sur le plan de la société. Sur le terrain, on a un entraîneur qui trouve des solutions, qui est capable d'ajuster le jeu de son équipe, de lui proposer une identité de jeu. Il y a de l'attaque, c'est vrai, c'est offensif, c'est vrai, mais on est capable aussi d'être flexible dans le système. Ça, c'est très bien. Et puis, Aurélien parlait à l'instant de peu de rotation chez Jürgen Klopp avec Liverpool. À Mönchengladbach, on a réussi à se passer de joueurs blessés, à profiter de leur retour. On peut citer quelques-uns d'entre eux. Par exemple, Brel Embolo, l'international suisse, qui a été longtemps absent avec Schalke, longtemps absent aussi avec Gladbach maintenant, qui revient et qui marque. Et il y a vraiment une bonne ambiance et une compétence technique, footballistique, qui s'additionne. Et c'est l'effectif qui n'est peut-être pas le plus clinquant en Europe, le plus brillant en Europe, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de bons joueurs dans cette équipe et ça marche bien, ils sont leaders de façon justifiée. Mais Jalal, c'est vrai, il faut dire que RB Leipzig est tout prêt, continue de gagner. Le Bayern a perdu là, c'est vrai, mais il était sur une très belle série avec son nouvel entraîneur. Schalke a retrouvé aussi de l'offensive alors que l'an dernier ça n'allait pas. Donc vraiment un championnat très, très serré dans le haut et pour l'instant c'est Gladbach qui est devant, mais ça peut aussi basculer en quelques matchs.
Voilà donc pour le Bayern. Parlons aussi de Dortmund, d'Achraf Hakimi et dont l'entraîneur Lucien Favre était au bord du limogeage. Dortmund s'est donné un peu d'air avec cette victoire 2-1 sur la pelouse du Stade Olympique de Berlin contre le Hertha.
Une victoire qui compte beaucoup, beaucoup pour Dortmund, avec un entraîneur qui a su adapter un petit peu son système. Il a changé son habituel 4-2-3-1 pour un 3-4-3 dans ce match-là. C'était demandé, c'était attendu. Il a été capable de le faire. On pourrait le voir comme un acte de faiblesse, mais ça veut dire qu'il a compris qu'il y avait des choses à changer aussi. Et ça a plu aux joueurs, ça a plu aussi aux dirigeants qui ont soufflé vraiment après cette victoire, parce que Lucien Favre est en sursis, hein, on le sait, avec Dortmund. C'est une victoire qui est laborieuse, qui est difficile contre un Hertha Berlin qui était très battant, parce qu'on l'avait dit dans la dernière émission, il y avait l'arrivée de Jürgen Klinsmann comme entraîneur à Berlin. Petite défaite, courte défaite pour Berlin, mais Dortmund n'a pas effacé tous ses maux avec cette victoire. Simplement, c'est une victoire essentielle parce qu'elle lui permet de rester, figurez-vous quand même, à un point seulement du Bayern et à garder espoir à la fois dans ce championnat et également en Ligue des Champions, on le sait, ils ne sont pas éliminés. Donc Dortmund est sur un fil, mais continue de garder espoir dans les deux compétitions.
Alors les amis, il reste trois petites minutes à passer ensemble. Je vous ouvre le micro à tous les deux pour parler du Ballon d'Or. Alors comment est perçue cette cérémonie et les nouvelles qui nous arrivent un petit peu de Paris avec un grandissime favori pour un sixième Ballon d'Or, certains Lionel Messi, l'Angleterre, de Liverpool, de Sadio Mané, de Van Dijk, de Mohamed Salah. Comment on voit tout ça? Comment tout ça est perçu du côté de l'Angleterre, Aurélien?
Bon, on va être complètement honnête, les Anglais ne s'attendent pas à ce qu'un joueur de Liverpool gagne le Ballon d'Or cette saison. Ils l'espèrent, mais ils sont assez réalistes et ils se disent que ça va être compliqué d'aller déloger Lionel Messi, même si, d'un point de vue complètement objectif, moi j'estime qu'un joueur comme Sadio Mané serait tout à fait à sa place comme Ballon d'Or cette saison, et j'espère qu'il va au moins faire le podium parce que ça serait très largement mérité. Mais c'est compliqué pour beaucoup de raisons, parce que il y a, je pense, des habitudes de vote, il y a le fait que Messi est en effet un des plus grands joueurs de l'histoire et c'est compliqué de ne pas voter pour lui, d'autant plus qu'il finit encore meilleur buteur européen cette année. Mais voilà, c'est un petit peu injuste. Et puis l'injustice s'arrête pas à Sadio Mané. Là, je viens de voir que Pierre-Emerick Aubameyang fait 20e du Ballon d'Or. Moi, je trouve que c'est pas un classement à la hauteur de ce que démontre le Gabonais depuis quelques saisons. Aubameyang, pour moi, aurait dû être au moins dans le top 15, parce que c'est un joueur d'une régularité, d'un talent et qui a quand même fait des grosses performances la saison dernière. Il fait la finale de l'Europa League, il finit meilleur buteur du championnat. Je trouve que c'est... Voilà, il y a un petit... ils sont un tout petit peu sous-estimés, je trouve, les joueurs de Première Ligue.
On en a parlé, surtout les joueurs africains.
Et notamment les joueurs africains.
Est-ce qu'en Allemagne, on s'intéresse encore au Ballon d'Or, même si, franchement, on le comprend, il ne concerne aucun des représentants du football allemand, en tout cas.
Ben, Jalal, on s'est un peu éloigné, et l'éloignement
progressif
s'accentue.
Peut-être Ter Stegen, comme gardien.
Depuis... Ben, oui. Oui, c'est vrai. Et puis des réactions ponctuelles sur un Lewandowski, par exemple, au détour d'une interview qui s'étonne un petit peu de façon ironique, mais tout à fait gentille d'être loin au classement alors qu'il en est, je crois, à combien 27 buts en 20 matchs ou quelque chose comme ça cette saison. Bon, voilà, des petites interrogations ponctuelles, mais on s'est un peu éloigné progressivement de cette cérémonie et de ce titre depuis 2014 où Philipp Lahm, du point de vue allemand, aurait mérité de recevoir le trophée, entre autres, mais Philipp Lahm avant tout, il était le capitaine, etc. On ne va pas revenir sur les succès de 2014 qui concernaient aussi son club. Et donc on s'est un peu éloigné de cela et on regarde avec un respect presque dogmatique les titres qui ont été partagés par Messi avant tout et aussi Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que c'est mentionné dans les médias allemands de façon factuelle, de façon informative, mais rien de plus, Jalal.
Merci beaucoup, David. Merci, Aurélien. Merci, Simone. C'est la fin de cette édition d'Après-Match. Mille merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes à l'écoute des médias.